Donc, première séance, existence du Dieu créateur et père, Dieu esprit éternel, intelligence, volonté, artiste de la création, création des esprits angéliques appelés à entrer dans l'amour de Dieu, création du cosmos, des galaxies, de la terre, des plantes, des animaux, création de la nature humaine, rencontre de l'esprit et du corps. Ensuite, la croyance humaine, les religions et la révélation biblique, l'histoire religieuse de l'humanité entre crainte et confiance, et la parole de Dieu adressée à Abraham, le sacrifice véritable, la confiance en un Dieu sauveur, et la promesse du sauveur pour Israël et toutes les nations. Ce qui fait que si vous avez le courage de venir jeudi prochain, on parlera de Jésus. Mais pour vous achever aujourd'hui, ce qu'on appelle la tradition adamique, c'est un Dieu unique. Ce Dieu unique, même s'il nous promet son amour et sa fidélité, il nous a quand même condamnés à mort. Et il a dit au serpent, la descendance d'Ève t'écrasera la tête. Et donc, cette espérance adamique, elle a traversé les siècles. La descendance d'Ève t'écrasera la tête. Ça veut dire qu'un jour, Lucifer va vouloir mordre au talon l'humanité et la tuer, et ce talon lui écrasera la tête. Le péché originel sera complètement effacé. Et cette promesse, dans la Genèse, c'est ce que se sont transmis les descendants d'Adam, les patriarches. Oui. Et lorsque nous arrivons à Noé, voyez-vous, il y a un patriarche qui... Enfin, on arrive à Noé, on recommence à partir de Noé avec 8 personnes, et au temps de Babel, on arrête et on se disperse. Quelque temps plus tard, vers les années 1700 ans avant Jésus-Christ, Abraham est de la religion d'Adam. Il est descendant d'Héber, il est descendant de Sem, et il vit à Ur, en Chaldée, hein, en Irak actuellement. Et Dieu lui dit de sortir de son peuple parce que les Chaldéens sont dans l'idolâtrie et le culte des démons d'une manière extrêmement profonde et ils sacrifient les bébés. Dieu demande à Abraham de sortir de cette infestation. Lui est un berger. Il a 300 bergers sous ses ordres et les troupeaux gardés par 300 bergers. C'est un homme riche, puissant, mais ce n'est pas un prince, ce n'est pas un roi, il n'a pas d'armée, mais il a ce qu'on appelle une familiarité, enfin c'est un nom particulier, c'est familier. Il peut lever 300 hommes, mais ce sont 300 hommes qui ne sont pas des soldats. Oui. Dieu lui dit de partir. Et donc, comme les peuples ont toute une partie de nomadisme, il part. Il part avec des tentes et il va s'installer. Il va faire une étape et Dieu lui demande de repartir encore. Et il promet à Abraham que sa descendance et la foi de sa descendance couvrira le monde. Qu'on entendra parler dans le monde entier. Vous voyez actuellement, que vous soyez chinois ou indien, 2018, même avec le nouvel an chinois, 2018, c'est l'année de la naissance de Jésus. Ça fait 2018 ans que Jésus est né. À 3 ans, 7 ans près. Donc, même les Chinois sont marqués par le christianisme, ne serait-ce que par le combat qu'il y a chez eux à résister à la dictature communiste, au régime autoritaire impérial pendant des siècles. Mais actuellement, personne ne peut ignorer le chiffre de 2018. C'est comme ça. Et c'est mondial. C'est pas anodin. Ils me disent c'est une secte qui a réussi, c'est une religion parmi d'autres qui a réussi. Eh bien quand même, hein, il y a quelque chose de humainement et psychologiquement fort. D'autant plus que nous avons des écrits très anciens qui ont au moins 2400 ans, qui reproduisent les promesses qui sont faites à Abraham. Ce sont pas des promesses qui sont faites à Brahman, ce ne sont pas des promesses qui sont faites à telle ou telle religion animiste. C'est Abraham à qui Dieu dit « Ta religion, mon lien avec toi s'étendra sur toute la terre. » Voilà, c'est quand même à retenir. Il va finir par s'installer près de Salem, au chêne de Mamré, où il achètera une terre. Avec près de la ville des Jébuséens de Salem, qui sont des Cananéens, hein, et qui donnera la ville de Jérusalem. Ici, il va avoir 80 ans, et il n'a toujours pas d'enfant. Donc il dit à Dieu, « Ta promesse d'une descendance, c'est sans doute par la pratique de la femme de second rang. » Et lui qui était monogame, qui avait Sarah comme épouse, il cède à la pratique païenne et il prend une femme de son grand rang, Agar, qui est une servante, pour que les enfants de la servante soient attribués à la femme légitime. Agar a Ismaël, et Dieu lui dit, c'est de ta propre descendance que viendra le salut. Eh bien, on se retrouve avec Isaac. Parce que Sarah, entendant cette promesse renouvelée, rit. Parce qu'elle a 80 ans. Abraham en a 90. Et pourtant, Isaac va naître un an plus tard. Agar et Ismaël vont être chassés. Et c'est l'archange Gabriel qui va sauver Agar dans le désert. Et qui va dire à Agar que son peuple sera un peuple dur comme un âne sauvage. Et ce sont les Arabes, sélites, qui sont toujours en opposition avec les descendants de Sarah et d'Isaac, depuis lors. C'est assez impressionnant. Ça date de là. Et d'ailleurs, dans le Coran, Mahomet change le mot d'Isaac en Ismaël, et dit que c'est Ismaël qui est le fils de la promesse, alors que c'est Isaac. Dans tous les écrits que nous avons, qui nous sont venus, qui ont été transcrits méticuleusement, c'est toujours Isaac, c'est pas Ismaël. Or, le Coran est écrit dans les années 620-670, 600 ans, 1000 ans après des écrits que nous avons, et qui disent bien que c'est Isaac. Alors que Isaac a 14-16 ans, Dieu lui dit, eh bien, je suis le maître de la vie et de la mort. Je te promets le bonheur. Je te promets une grande descendance. Oui. Eh bien, le fils que je t'ai donné, Isaac, rends-le-moi. Pardon. Fais un sacrifice humain comme les autres peuples, mais en mon honneur. Saint Paul nous révèle qu'Abraham était certain que Dieu le ressusciterait après le sacrifice. Il n'empêche, Abraham part sur le mont Moria, où le temple de Jérusalem sera construit plus tard, et Isaac porte des fagots de bois et dit « Où est l'animal ?» Et Abraham lui dit « On le trouvera. » Arrivé au mont Moria, il dispose le bois sur la pierre et il dit à son fils de monter sur le bois. Et Isaac se laisse faire, stupéfait. Et au moment où Abraham va couper la gorge de son fils, un ange apparaît, lui retient le bras et lui dit « Maintenant, tu as passé cette épreuve de la confiance aveugle en Dieu. Mais Dieu ne veut pas la mort. Prends cet animal. » Donc il y a un bouc dont les cornes s'étaient prises dans les buissons à côté. « Et de ton fils Isaac, que tu as offert à Dieu, descendra celui qui sauvera le monde. » Isaac eut Jacob. Jacob eut 12 enfants, les 12 tribus d'Israël. Jacob, avant de mourir, se battra avec un ange. Et l'ange, avant de le quitter, lui dira « Maintenant, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, parce que tu es fort face à Dieu. » Et mourant, Jacob dit à son un de ses fils, qui s'appelle Judas, mais pas Judas Iscariote, celui qui trahira le Christ, lui dit « De toi viendra le Sauveur, quand le sceptre quittera ta tribu. » C'est-à-dire qu'il prophétise à Judas qu'il deviendra le roi de ses frères, alors que c'est une structure patriarcale, et qu'au moment où le sceptre quittera son clan, le Sauveur viendra. Cette prophétie est faite environ 1500, 1600 ans avant Jésus-Christ. Elle est tellement énorme que certains disent « Mais non, ça a été inventé de certaines époques comme ça. » Sauf que grâce au manuscrit de la Mère Morte, on sait au moins qu'elle a 200 à 400 à 600 ans avant Jésus-Christ. Ce qui est largement suffisant pour lui assurer une belle ancienneté. Eh bien, le peuple grandit, mais il y a une famine. Et Joseph, un des fils de Jacob, qui était un saint homme, est jalousé par ses frères qui vont le tuer, essayer de le tuer. D'abord, ils essayent de le tuer, et puis le frère aîné les dissuade, et pendant ce temps-là, il leur dit, « Eh bien, on va mettre notre frère dans un puits d'eau à 5 mètres de profondeur, et il mourra de faim, mais au moins, on n'aura pas versé son sang. » Des Cananéens partent en caravane vers l'Égypte, et un des frères se dit, les frères qui sont restés se disent, la solution de l'aîné, elle est bancale, vendons notre frère comme esclave. Et du coup, le pauvre Joseph part en Égypte. Et quand l'aîné revient et il voit plus son frère dans la citerne, les autres l'ont dit, on l'a vendu. Donc on pourra plus jamais le retrouver. Il a été vendu. Quelques temps plus tard, il y a les 7 vaches maigres, 7 vaches grasses. Et le jeune Joseph va dire à Pharaon comment se sortir de cette famine. Et Jacob, Israël, avec ses fils, vont venir en Égypte pour éviter la famine et trouver la nourriture en Égypte. Et là, le peuple juif va rester pendant 400 ans, se multipliant et se multipliant dans le nord de l'Égypte. Au bout de 400 ans, on oubliera que Joseph avait sauvé l'Égypte par son interprétation du futur en tant que prophète, et on va réduire le peuple juif en esclavage. On va lui faire construire des briques avec de la paille et traîner les pierres des pyramides. Et à ce moment-là, Dieu va susciter Moïse parce que Pharaon, voulant réduire le nombre de juifs, fait mourir tous les bébés mâles, tous les garçons. Et donc une femme juive va mettre le petit Moïse, son fils, circoncis, dans un petit panier près de l'endroit où la fille de Pharaon se prend son bain dans le Nil, pour que le panier arrive jusqu'à elle. Elle le sauve, elle voit que c'est un petit enfant hébreu, circoncis, et elle le confie à sa nourrice, une de ses servantes, qui est la mère de Moïse, et qui récupère ainsi son enfant et qui l'éduque dans la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et devenu grand dans la cour de Pharaon, officier de Pharaon, il essaye de défendre son peuple. Il y a un échauffouré où il tue un Égyptien qui voulait tuer un Hébreu, et il doit partir dans la montagne. Dans la montagne, il redevient un simple berger. Et alors qu'il est sur le mont Sinaï, et qu'il est près de ses bêtes, il y a un arbuste qui enflammé, qui ne se réduit pas en cendres, et qui brûle. Il s'approche, une voix lui dit « Retire tes chaussures, ce lieu est saint. » Il s'approche, et là, La voix lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. 400 ans derrière. Hein. Tu vas tirer mon peuple d'Égypte et le mener jusqu'ici, en ce mont Sinaï. Et je lui donnerai une terre où il pourra s'étendre et se répandre comme le sable de la mer. Et vous avez Moïse qui est là, il dit, mais comment faire? D'abord, je ne sais pas parler. Aaron, ton frère, parlera pour toi. Il sera ton interprète auprès de Pharaon. Il sait que je m'exprime mal, je ne pourrai pas raconter tout ça. Aaron parlera pour toi. Et il est pétrifié. Dieu lui demande de mettre son bâton par terre. Son bâton se transforme en serpent et redevient un bâton. Tu montreras ça à Pharaon. Il part voir Pharaon, alors qu'il est recherché pour crime. Hein. Mais bon, il pose son bâton par terre. Les mages égyptiens posent leur bâton par terre et qui se transforment en serpents et qui redeviennent des bâtons. On est dans la sorcellerie égyptienne. Si vous voulez vous intéresser à la sorcellerie égyptienne actuellement, et cette sorcellerie égyptienne est très présente encore actuellement. Vous avez des sectes maçonniques qui utilisent les Rosécruciens qui sont dans cette sorcellerie égyptienne, très ancienne, qui se mêlent à la théologie juive dans ce qu'on appelle la Kabbale. Dieu veut que son peuple sorte d'Égypte. Et vous avez les 10 plaies d'Égypte. Et ce peuple, 600 000 hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, sont là. Et vont dire, mais comment quitter l'Égypte? Même si nous souffrons, nous avons des maisons, nous mangeons. Nous allons partir dans le désert. Et il y a les fléaux de la grêle, les fléaux des sauterelles, les fléaux des temps, des moustiques, des grands moustiques terribles. Le fléau de l'eau transformée en sang, des grenouilles. Et le dernier fléau, c'est comme les Égyptiens ont tué tous les bébés. Dieu punit de manière très sévère. Il dit, tous les premiers-nés égyptiens vont mourir dans la nuit du passage de l'ange exterminateur. Pâques, en hébreu, ça veut dire passage. Et cette nuit-là, vous passerez, vous ferez vous-même votre Pâques pour sortir d'Égypte. Vous prendrez un petit anneau, un agneau d'un an, dont vous mettrez le sang sur les linteaux de vos portes. L'ange exterminateur passera et vous épargnera et tuera tous les premiers-nés mâles d'Égypte, du fils de Pharaon jusqu'aux petits des bêtes. Et dans la nuit pascale, ce fut une clameur d'épouvante en Égypte. Enfin, c'était des païens qui n'avaient quand même pas peur de faire mourir les bébés sans broncher. Hein. C'était des gens durs. Hein. Et ils disent aux Hébreux, partez, partez. Ils leur donnent même de l'or, des bijoux. Foutez le camp, partez. Et alors que Moïse part avec son peuple, avec les carrioles, les machins, tout ça, ils ont pris la Pâque debout, en mangeant un agneau cuit. Pharaon, de rage, envoie quand même son armée derrière les Hébreux. Les chars, les soldats. Et là apparaît une tornade de nuages, hein, comme un cyclone, qui conduit le peuple, et le conduit tout droit vers le bras de mer, dans une impasse. C'est incompréhensible, les gens sont terrorisés, parce que l'armée arrive et eux sont bloqués par la mer. À ce moment-là, la tornade part et va à la fin de la colonne des Hébreux, ensable complètement l'armée, et Moïse ouvre les bras et vous avez le bras de mer qui s'ouvre devant lui avec le sol qui est desséché par le vent. Tout le peuple hébreu passe, et quand ils sont passés, Moïse ferme les bras, baisse les bras, et l'armée d'Égypte qui est rentrée dans le bras de mer est noyée. Voyez, c'est un miracle tel qu'on en a fait des films, Cécile B 2000, mais ça fait vivre le peuple hébreu depuis 2400 ans. Et c'est pas pour rigoler qu'ils y croient, eux. Nous, on n'y croit plus dans les miracles du temps passé, même dans les miracles du temps présent. Mais voyez-vous, un jour comme ça, il y a un prêtre exégète, mais c'est une blague, hein, qui arrive près d'un groupe charismatique, qui dit « Oh Seigneur, Seigneur, tu as, libéré ton peuple de la servitude d'Égypte en ouvrant la mer devant lui. Mais vous comprenez pas, ils sont passés à gué. Il y avait 50 cm d'eau et tout ça. Ah bon, les carrioles, tout ça, au bout de toute cette colonne, ils n'étaient pas embourbés. Non, c'est là le miracle éventuellement. Ils sont passés à gué. Ah d'accord, ah bon, c'est pas miraculeux. Ah bon. Une semaine plus tard, il passe, il entend toujours ce groupe de prières, dit « Louange à toi Seigneur, tu as libéré ton peuple, tu as fait des miracles. » Mais quel miracle? De quel miracle vous parlez? Mais oui, il a noyé des cavaliers avec leur monture dans 50 cm d'eau. Oui. Alors, aux dernières recherches archéologiques, on aurait trouvé des chars au fond de la mer. Des chars égyptiens. Ah, ça serait beau, ça. Ça serait très beau, enfin bon. Le peuple est là. Et alors qu'ils rentrent en Terre Sainte, ils ont peur. Et ils disent à Moïse, c'est pas possible, on va tous mourir. On aurait dû rester en Égypte. Et là, Dieu dit à Moïse, eh bien le peuple va tourner pendant 40 ans dans le désert. Et tous les hommes qui ont refusé d'entrer en Terre Sainte mourront. Et c'est l'autre génération qui rentrera en Terre Sainte. Et pour survivre pendant 40 ans dans le désert, ils auront une nourriture miraculeuse de la gelée qui chaque matin apparaîtra avant le lever du soleil, qu'ils doivent récolter et manger, et qui disparaît lorsque le soleil arrive. 40 années. Je peux vous assurer que les juifs des synagogues à côté, eux, ils y croient dur comme fer. Et que ça a été enseigné pendant des siècles dans la Sainte Église catholique. C'est ce qu'on appelle la manne. Parce que quand les juifs sont sortis, ils ont dit « qu'est-ce que manou ?» En hébreu, ça veut dire « qu'est-ce que c'est ?» Au bout d'un certain temps, d'ailleurs, ils en avaient marre de prendre cette gelée, une sorte de miel fondu, et ils ont réclamé de la viande. Du coup, Dieu leur a donné des cailles pendant un mois. Mais que des cailles pendant un mois. Ils mangeaient des cailles tous les jours. Et donc, à la fin, ils ont préféré la manne. Alors, ça nous fait sourire, mais voyez, ils ont tourné, et arrivé en Terre Sainte, Moïse est mort juste avant, et Josué, lui, est là, il prie, et le Jourdain, qui est le fleuve par lequel ils sont entrés dans Terre Sainte, s'arrête. Toute l'eau part vers la mer. Vous avez un mur d'eau à droite. Et le peuple rentre en face de Jéricho. Et le peuple juif va s'installer en Terre Sainte. Pendant près de 400 ans. Jusqu'au roi David. Et là, Dieu dit à David, la promesse que j'ai faite à ton ancêtre Abraham, elle va s'accomplir en toi, et de toi viendra celui qui apportera le salut à ton peuple. Et le roi David est là, 1000 ans avant Jésus-Christ. Et il va chanter, il va prier, et parmi ces prières qu'il va composer, au moins 70 prières chantées, psaumes sur 150, il va annoncer la venue de du Sauveur, de celui qui doit être envoyé, le Messie, de celui qui doit être recevoir l'huile de bénédiction, le oint en grec, le Christ. Et de loin, il annonce le Sauveur, 1000 ans plus tard. 400 ans plus tard, en l'an 600 avant Jésus-Christ, vous avez un prophète qui demande à un roi qui descend du roi David, demande-moi un miracle. Ah non, je ne tenterai pas le Seigneur. Eh bien, voilà le miracle. Une vierge enfantera un enfant. Et vous l'appellerez Emmanuel. 600 ans avant Jésus-Christ. Voilà. Et je pense que je vous ai déjà beaucoup parlé. Et donc, jeudi prochain, vous allez pouvoir respirer et entendre parler de Jésus. Mais vous comprendrez que Jésus ne vient pas comme ça. Et je vous parlerai de la manière dont lui-même parle et dont lui-même va bénir le mariage. Pourquoi ? Parce que comme nous le verrons, c'est lui le fiancé. C'est lui l'époux de la nature humaine. Et donc, lorsqu'on se marie dans la foi chrétienne, on fait quelque chose qui dépasse, voyez-vous, la faiblesse humaine. Et vous êtes parmi les derniers des Mohicans à vouloir vous marier en vérité.